20h16 minutes, la pause du match des étoiles arrive à grands pas du côté du baseball majeur et c'est temps de faire un bilan. Et pour faire le bilan baseball majeur, Alex Agostino est avec nous. Salut Alex.
Salut Jérémy.
Alex, avant qu'on débute avec notre bilan, peut-être parler de Chase Utley qui a annoncé que ce dernier prendra sa retraite à la fin de la présente saison. 16 saisons dans le baseball majeur, 39 ans. Là, il évolue pour les Dodgers, mais t'es un joueur important chez les Phillies de Philadelphie pendant plusieurs saisons.
Ouais, un choix de première ronde. C'est lui qui a été avec Ryan Howard, Cole Hamels, Jimmy Rollins et Carlos Ruiz, le noyau de l'équipe championne de 2008. Même à un certain moment donné, les chiffres, avant qu'il y ait une coupe de blessures, parlaient d'un gars potentiellement qui aurait pu se rendre au temple de la renommée, un joueur offensif au deuxième but. Un leader silencieux, comme on peut appeler. C'était un gars qui se présentait à jouer à tous les jours, à toutes les journées, qui avait mal, qui était en léthargie ou pas. C'était un gars qui se préparait, qui prenait un soin jaloux de lui-même. Termine sa carrière à Los Angeles, là où il a été élevé, où il a joué son baseball collégial. Je pense que cette année, il aimerait encore être une fois dans les séries comme l'année passée, d'aller chercher un autre championnat dans sa carrière. Mais c'est un gars qui est vénéré puis qui ne sera jamais oublié à Philadelphie parce que les chiffres, les saisons étoiles parlent pour eux-mêmes, Jérémy.
En tout cas, à moins que je me trompe, c'est lui qui s'est fait fracturer une jambe sur une glissade au deuxième but. Ça a changé un règlement, là.
Ouais, c'est lui qui a fracturé la jambe du gars.
Ah, voilà, OK, parfait, excuse. C'est quasiment pareil, mais c'est différent.
C'était contre les Mets, je m'en rappelle bien. Parce que Chase Utley n'est pas un joueur cochon, mais un joueur agressif, okay. Intense. Et tu sais, dans le baseball majeur, tu l'as vu dans les années 70-80, Jérémy, des glissades intenses au deuxième but pour briser des doubles jeux. Mais la glissade à Chase Utley, c'était le nouveau règlement que le joueur doit glisser et rester en contact avec le but, ne pas s'éloigner, s'égarer, sinon c'est un double jeu automatique. Dans cette séquence-là, le joueur, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'était Flores des Mets, il était hors d'équilibre, c'était un mauvais relais de son joueur d'arrêt court, et la glissade de Utley qui a continué sur le joueur, fait en sorte que le joueur malheureusement s'est blessé. C'était jamais l'intention. En connaissant un petit peu l'homme qu'il est, Utley, c'était pas l'intention, mais il est pas là pour se faire des amis lorsqu'il est entre les lignes blanches. Et exactement, ça a changé un règlement de ce côté-là.
Ben écoute, merci de m'avoir corrigé. Écoute, Alex, sais-tu quoi? À chaque fois qu'on se parle de faire un résumé où on regarde les sections dans le baseball majeur, les Phillies de Philadelphie, au courant des dernières années, connaissent quelques difficultés. Mais attention, cette année, dans l'Est de la Nationale, les Phillies sont au premier rang. 52 victoires, 40 défaites?
Oui, une demi-partie en avant de l'autre équipe, très surprise, les Braves d'Atlanta d'Alex Antopoulos. Ces deux équipes-là qui sont... C'est vraiment la jeunesse qui fait le travail. Une couple de bons vétérans comme Jake Arrieta du côté des Phillies, mais du côté des Braves, t'as des gars comme Freddie Freeman, Nick Markakis connaissent de bonnes saisons. Mais là, on lance bien. On est un petit peu, je te dirais, un an en avance de où on devrait être, mais on ne dira jamais non. Quand tu regardes à la pause du match des étoiles, t'arrives, t'es à égalité. Tu regardes, c'est maintenant une course de trois équipes parce que faut pas oublier que les Nationals, malgré tous les déboires, viennent d'en gagner une coupe de suite, sont à 5 parties. Sont habitués d'être dans les séries, mais ce que ça fait, comparé à l'américaine où il n'y a pas de course nulle part, c'est que dans la nationale, les divisions sont intenses. Il y a 11 équipes pour 5 positions dans les séries, dont les Phillies en font partie. Si on est capable d'aller chercher un petit peu plus d'offensive, parce qu'on gagne beaucoup vraiment avec les lanceurs, les lanceurs de relève, des matchs serrés. Juste un exemple, Jérémy, Aaron Nola, notre lanceur tout étoile, a gagné sa 12e partie l'autre jour. 3-1, ben il a frappé un double de 3 points, que c'est pas un frappeur, pas reconnu comme un frappeur extraordinaire comme lanceur. On a frappé 2 coups sûrs et on a gagné le match. Alors, tu peux pas toujours faire ça quand ta saison va continuer à avancer puis tu vas arriver dans le mois d'août contre des grosses équipes. La chose importante des Phillies, c'est qu'on a eu une très dure séquence d'une quarantaine de joutes contre des équipes en haut de 500 et on a joué pour 500. Et là, tout d'un coup, on a affronté les Pirates, les Orioles, les Mets, et là, hop, t'en gagnes 3-4 de plus que tu en perds à chaque semaine, ben c'est là que tu regardes le classement tous les jours. Puis avec notre leader, Gabe Kapler, le gérant, que j'ai jamais vu quelqu'un de plus positif ou entendu quelqu'un de plus positif que lui dans ma carrière de baseball, fait que les joueurs ont le goût d'y aller. Puis les joueurs commencent à y croire. Puis là, tu as un Carlos Santana qui frappe 215 malgré qu'il y a une bonne présence sur les sentiers. Lui, il va falloir qu'il commence à générer un petit peu plus d'offensive. Mais à tous les jours, quand tes lanceurs te donnent l'opportunité, t'es rendu en septième manche, c'est 2-2, c'est 2-1, c'est 3-1, c'est serré. Tu sens que, tu sais, c'est contagieux, t'as une chance de gagner. Et c'est bien plus le fun que de voir les Nationals 10-15 parties en avant, comme on va dans les courses dans la Ligue américaine. Alors, c'est intéressant. Puis comme employé de l'équipe, ça te donne le goût de continuer à te battre pour aller chercher des meilleurs joueurs. Puis tout le monde est de bonne humeur. Ça, c'est une grande différence.
Parlons des luttes serrées. Restons dans la Nationale. Dans l'Ouest, les Dodgers, 51 victoires, 42 défaites. Les D-backs, 51 victoires, 43 défaites. Extrêmement serré, là.
Ben écoute, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est des courses jusqu'à la fin. Parce que les Dodgers ont eu un début de saison très moyen. Et là, tout d'un coup, ils n'ont gagné quoi 7 sur les 10 dernières. Ils commencent à prendre leur envol. Mais les Diamondbacks, eux, sont prêts. Puis il faut pas oublier, les Rockies et les Giants ne sont qu'à 3 parties. Ils ont 3 parties en haut de 500. Si je me trompe pas, il y a 11 équipes dans la Nationale qui jouent en haut de 500. Les équipes qui sont pas bonnes, comme les Padres, les Marlins, les Mets, sont vraiment pas bonnes, là. Mais les autres, ils jouent. Puis quand t'arrives, disons un exemple, le 1er août, puis t'es à 5 parties, puis il reste 2 mois, tous les espoirs sont permis. Puis là, tu regardes les Dodgers, les Diamondbacks, les Rockies, les Giants. C'est 49 victoires, les Giants, puis c'est les Dodgers, 51. C'est vraiment pas une grande différence. Et ça, ce que ça fait dans les prochains mois, c'est que ça remplit les stades, parce que ton équipe a une chance, et ça force l'état-major des équipes comme les Rockies, les Giants, les Diamondbacks, de ne pas être vendeurs, mais de montrer à leur équipe, à leurs partisans, on est acheteur, on va aller chercher un lanceur, on va aller chercher un joueur important, un releveur qu'on a besoin pour tenter de déloger les Dodgers, parce que, tu sais, je veux dire, dans l'autre division, bon, 5 équipes, on sait c'est qui, puis il y en a 3 qui vont se battre, les Red Sox, les Yankees, les Astros, il y en a qu'un qui va se rendre en série mondiale, tandis que du côté de la Nationale, c'est beaucoup plus ouvert.
OK. Prenons quand même quelques instants pour parler dans l'Est, dans l'Américaine, les Red Sox et les Yankees. Écoute, les autres font quoi?
Les autres font rien, Jérémy, tu regardes.
Comment tu veux? Non, mais comment tu veux performer? C'est impossible. Les Yankees et les Red Sox sont juste trop forts pour la Ligue présentement, là.
Ben, écoute, ils sont trop forts, oui, mais ce que tu dis, ce que j'aime, ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu fais? Les Rays de Tampa, là, oui, ils sont à 17 parties, mais ils jouent 3 parties en haut de 500. Puis c'est les Rays de Tampa qui n'ont pas une masse salariale, qui n'ont pas un choix dans les estrades. Ils ont 5 parties et demie en avant des Blue Jays qui ont une meilleure masse salariale, qui ont plus de monde dans leur stade, qui ont des meilleures filiales. Alors, tu sais, à un moment donné, les joueurs, ils doivent jouer. Faut que tu oublies que tu es dans la division des Yankees, des Red Sox, tu joues à tous les jours. Parce qu'en bout de ligne, dans la centrale, c'est les Cleveland qui sont là, mais il n'y aura personne qui va être dans le meilleur deuxième. Puis là, tu regardes l'autre côté, les Angels d'Oakland, ils ont 53 victoires, 41 défaites dans l'Ouest. Eux autres, ils vont se battre pour une place pour le meilleur deuxième, malgré que les Astros et les Mariners dominent aussi. C'est l'Américaine, là, en saison morte, des équipes comme les Twins, les Tigers, les White Sox, les Royals, même les Rangers Texas, ont tous comme abandonné avec la façon qu'ils ont travaillé dans la saison morte. Alors, ça fait en sorte que les courses sont pas le fun, mais il y a quand même des équipes qui jouent bien. Puis Oakland et Tampa, ça en ont 2, mais malheureusement, l'écart est tellement énorme. Boston ont déjà 66 victoires. On est à la pause du match des étoiles. Je suis pas sûr que les Mets et les Marlins vont en gagner 66 dans la saison, Jérémy. Alors, ça veut tout dire.
Ouais, ça veut tout dire. Écoute, Alex, tu sais qu'à chaque fois qu'on te parle, c'est toujours la chronique. Retrouvons Alex à travers l'Amérique du Nord. Là. Tu es dans quel coin? Tu voyages où, là?
Ouais, c'est tellement le fun, tu le demandes, ça fait du bien. J'étais à Laval aujourd'hui pour un week-end baseball en pire. Hier, j'étais à la classique Claude Raymond pour aider à entraîner l'équipe des Rouges à la Classique. Et je passe la journée demain sur les terrains de balle à la Classique Claude Raymond. Ainsi, en soirée, fêter l'anniversaire de mon épouse. Ça fait bien d'être à la maison pour ça. Et dimanche, ben, c'est le départ pour Boston et la Ligue Cape Cod, une coupe de parties d'étoiles des différentes ligues collégiales avant de poursuivre sur le chemin du retour, mais de temps en temps, ça fait du bien d'être à la maison.
Oui, puis madame, elle aime ça quand t'es là pour sa fête, j'en suis convaincu. Oui. Alex Agostino, écoute, je te donne rendez-vous parce qu'à compter de la semaine prochaine, je serai en vacances, c'est Derek Aucoin qui va être là à l'animation des amateurs de sport. Donc, forte chance que tu sois en conversation avec Derek Aucoin au courant de la prochaine semaine. Alex, merci d'avoir été avec nous.
Merci, bye-bye.
Merci, au revoir Alex Agostino qui nous faisait un bilan là, de mi-saison à l'approche de la pause du match des Étoiles. Je prends quelques instants pour vous mentionner que Marc-André Fleury a signé une extension de contrat de 3 ans avec les Golden Knights de Vegas. 21 millions de dollars, moyenne annuelle de 7 millions de dollars par saison. Je vous rappelle que lui terminait un contrat de 4 ans que les Penguins de Pittsburgh lui avaient fait de 23 millions. Ça donnait 5 750 000. Donc, une année de contrat et par la suite, 3 autres années pour Marc-André Fleury. Voilà ce qui complète cette édition des Amateurs de sport. Gros merci à Mario Gélandlois à la mise en onde. Restez là, retour. C'est Mathieu Roy qui s'amène pour Bonsoir les sportifs ce soir, une émission de eSports. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.